vais entretenir un petit peu de ces dossiers scolaires, à mon point de vue. D'abord, il y a un questionnaire aux familles, et ce questionnaire aux familles nous apporte énormément d'éléments sur la psychologie des parents. Vous avez évidemment l'état civil, vous avez l'adresse, vous avez toute la composition de la famille, mais vous avez également les conditions de vie qui doivent être énoncées par les parents. Hein? Si l'enfant ne vit pas avec ses parents, où vit-il? Votre enfant dispose-t-il d'une chambre à lui tout seul, voyez-vous? D'un endroit pour jouer, s'occupe-t-il tout seul? Avec qui partage-t-il sa chambre? Quand il est libre, quelles sont ses occupations préférées? La maison, les jeux, le dessin, le bricolage, au dehors, que fait-il? Donc moi je commence à dire que cette première page est intéressante pour un pédagogue qui doit être également psychologue et sociologue. Car il est évident que le comportement d'un enfant dépend en grande partie de ces questions qui paraissent très simples, mais dépend énormément. Hein, votre enfant dispose d'une chambre à lui. Ben, il faut savoir ce que c'est que ce que représente une chambre pour un enfant. Ça représente tout un univers, ou ça représente un enfer. Ou alors vivre en communauté avec des frères et des sœurs entassés, hein, cela représente aussi un autre enfer, qui peut avoir un comportement, ben justement, sur son coefficient intellectuel, sur son comportement social, sur son comportement à l'école. L'enfant qui doit vivre dans des conditions matérielles bonnes arrive détendu, frais à l'école. L'enfant qui a vécu un enfer entre le dîner du soir et le petit déjeuner du matin arrive à l'école, il se déchaîne. Il se déchaîne. Alors c'est pour ça que cette première page est importante si on veut bien y prendre garde. Cependant, il faut encore compter avec la psychologie des adultes et savoir lire entre les lignes quand les parents vous écrivent quelque chose sans mettre en doute la véracité de ce qu'ils vous disent ou ce qu'ils écrivent, qui est beaucoup plus grave, mais il faut faire la part des choses. Et puis il y a également le jugement de l'enfant par les parents. Ça, c'est très intéressant. On vous dit: votre enfant est-il tranquille ou vif, docile, difficile, renfermé, expansif, lent, etc. Ben, là aussi, pour le psychologue, il y a des choses à tirer. C'est que si les parents vous répondent, par exemple, mon enfant est très renfermé, et qu'en classe on observe qu'il est très expansif, ben alors il faut chercher pourquoi il est renfermé à la maison et pourquoi il devient expansif à l'école. Ou inversement, si les parents vous disent qu'il est, par exemple, très expansif à la maison, pourquoi il se renferme à l'école? Et ce pourquoi est important pour le maître, car il se posera la question à lui-même: suis-je dans la bonne voie? Ne suis-je pas en train de commettre une erreur?
Oui.
Je ne vais pas continuer outre mesure le dépouillement de cette fiche, vous pourrez le faire aussi bien que moi, et voir que, à mon sens, on peut, je crois, tirer beaucoup déjà de la fiche familiale. Maintenant, dans le dossier scolaire proprement dit, où il devient un peu plus technique, il y a quand même les renseignements sociaux qui sont encore une fois reportés, puisque ce dossier suit l'enfant. Il y a une page qui est réservée aux épreuves et à des tests psychologiques. Là, justement, c'est que si on détecte qu'il y a une anomalie dans le comportement de l'enfant, on peut demander toujours une consultation psychologique. On ne l'obtient pas toujours tout de suite. Mais enfin, on arrive quand même à faire passer un enfant dans les mains d'un psychologue. Et c'est noté quand même dans son dossier. Ensuite, on vous dit que ce dossier suit toutes les classes primaires. Ben oui, comportement scolaire. Ben, dans toutes les classes, en réalité, vous avez une étude du caractère et du comportement de l'enfant pour chaque classe, cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen deuxième année. Ben, si le personnel remplit d'une façon tout à fait objective toutes ces colonnes, je pense qu'il permet au collègue qui va lui succéder d'avoir des éléments à son enfant. Et ensuite, vous avez les résultats scolaires. On a dit tout à l'heure qu'on aurait demandé à ce que le carnet scolaire suive. Alors, enfin, vous connaissez bien la grande diatribe actuelle, plus de notation, pour éviter justement, soi-disant, des refoulements, des défoulements, enfin tout ce qui en ment, pour éviter tout ça, pour éviter des erreurs psychologiques, il faut plus noter, il faut juger d'après la valeur. Ben, c'est c'est possible, hein, pour les matières ici essentielles, le français, le calcul, les autres disciplines. Et ce dossier-là, justement, il y a une recommandation très importante. Cette recommandation, on ne doit pas donner ce dossier au maître le premier jour de la rentrée, même pas au premier trimestre, on ne doit lui donner qu'au début du deuxième trimestre, c'est-à-dire à la rentrée de janvier. Pourquoi ? Ben vous comprendrez, il ne faut pas que le maître se fasse une fausse idée de l'enfant en regardant les appréciations qui ont été mises précédemment. Donc il fonde son jugement de l'enfant. Il étudie l'enfant pendant un trimestre, et ensuite le directeur d'école lui donne le dossier. Et à ce moment-là, il peut s'apercevoir, en toute honnêteté, si l'enfant conserve le même comportement ou si l'enfant change de comportement. Alors par conséquent, je dis que ce dossier scolaire tel qu'il est établi, dans le cycle primaire, je ne parle pas ensuite de son utilisation postérieure au cycle primaire, mais dans le cycle primaire, j'estime qu'il est valable, à condition de bien vouloir se pencher et d'être le plus impartial possible. Voilà ce que j'avais à dire sur le dossier scolaire.
Oui, mais c'est très intéressant, ça. Vraiment, je ne savais pas le détail. Je savais que cela existait, mais je ne savais pas comment on s'en servait. Et c'est vous qui avez décidé, donc, de ne rendre le dossier.
Non, ce sont les autorités. Quand elles ont créé le dossier, évidemment, ça a été fait par des inspecteurs, hein, par des psychologues. Et d'ailleurs, tout le dossier, il n'y a qu'à le voir, est tout à fait net et clair. C'est fait par un psychologue, quoi. Hein, il y a toutes des annotations qui ont beaucoup plus trait à l'observation de l'enfant dans son comportement, dans ses attitudes, dans ses progrès, dans son progrès personnel, voyez-vous, dans sa progression personnelle, hein, qu'une notation sèche. Alors moi, c'est pour ça que dans notre cycle, moi j'ai dit que le dossier, voilà, personnellement.
Est-ce que les maîtres apprennent à s'en servir?
Les maîtres, je vous dis, doivent savoir s'en servir, hein, puisque tout est expliqué. Il n'y a qu'à répondre aux questions par des croix, ou par des A, ou par des B, ou par des C, c'est tout. Ouais. Alors quand on est un maître titulaire, on est quand même apte à faire, apte à juger un enfant, quoi. Hein, ou alors c'est nier sa valeur professionnelle.
Et s'il y a des maîtres qui ne trouvent pas d'utilité à ça, enfin qui trouvent peu d'utilité, vous croyez qu'ils remplissent quand même
Ils remplissent quand même. Oui. Non mais là je crois qu'on est sur deux normes différentes. Oui. Tout à l'heure on a parlé d'utilisation du dossier après le cycle primaire. Et je crois qu'on n'a pas assez approfondi à l'intérieur du cycle primaire. Or, nous, moi je dis que c'est un avantage pour le cycle primaire, et vous, c'est très important parce qu'on peut suivre le comportement d'un enfant sur 5 ans ou sur 6 ans. Mais dans l'utilisation pour l'entrée dans le secondaire, ça, on vous a donné des opinions, évidemment, qui sont peut-être évidentes. Mais enfin, dans les certains cas, quand même, on feuillette le dossier scolaire. On le feuillette quand même. On ne le feuillette pas toujours, mais on le feuillette. Et moi, je parle surtout de l'utilisation dans le cycle primaire. En ça, au-delà, ça, je ne sais pas l'utilisation qu'on peut en faire. Enfin, pour moi, voilà la valeur de ce dossier. Il me semble qu'il a été fait dans ce but-là. Et voilà pourquoi on ne doit le donner qu'en janvier. Pour qu'il n'y ait pas une suggestion. Oui, vous m'aviez demandé de vous répondre à quelques questions.
Merci beaucoup.
Je ne vous cache pas mon opinion. Hein. Je vous dirais que je suis très embarrassé, que je vais peut-être vous répondre d'une façon un peu large. Parce que quand on a fait partie d'un événement historique, ben, soyons honnêtes, il est quelquefois difficile d'être vraiment impartial.
Mais
ça, c'est dans la nature humaine.
Je ne sais pas s'il est possible d'être impartial à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai l'impression, l'ayant étudié de très loin, que ce n'est pas un sujet,
non, mais moi,
ce n'est
pas
un problème.
Oui, mais j'étais baigné dedans.
Oui.
Alors, être impartial. Hein, être impartial, c'est dire les choses telles qu'elles se sont faites, telles qu'elles se sont passées. Vous comprenez? Mais quand vous faites partie d'un ensemble, c'est inhérent à la nature humaine. Vous êtes influencé par votre milieu, vous êtes influencé par tout le comportement de la société. par vos idées personnelles. Alors, répondre à certaines questions, c'est difficile. Parce que là, il y aurait de la partialité, c'est-à-dire prendre part pour. Et ça, je vous avouerai que ça, ça me serait difficile de prendre part pour ou contre, hein, dans une question pareille.
Naturellement.
Oui. Alors c'est pour ça que je vous dis, je vais vous donner des réponses très larges, hein, mais enfin, je ne peux pas tout développer parce que je vous dis, je fais partie d'un ensemble.
Oui.
Et honnêtement, je dirais que je serais partial, hein, je risque d'être partial. Vous comprenez? Alors, je crois qu'il ne faut pas dénaturer les propos. Quelle est votre première question?
Mais ce qu'on cherche surtout, ce que moi je cherchais surtout, c'est simplement l'optique d'un Français d'Algérie.
D'accord.
Et la première question, c'était jusqu'à quel point est-ce qu'on sentait que la capitale, pour vous, c'était l'Alger?
Alors, le mot capitale, enfin, je ne vous ferai pas encore l'étymologie, hein. Capitale vient de cap, la tête. Donc la capitale représente le sommet, hein, de quelque chose. Capitale, il fallait l'entendre, il faut faire la différence tout de suite. Est-ce que, pour le français, dans votre esprit, le français d'Algérie, ou disons tout simplement les habitants de l'Algérie, puisqu'il y avait deux communautés, trois, quatre qui vivaient ensemble. Est-ce que cette capitale représentait, si vous voulez, la cristallisation de leur vie, ou est-ce que Paris représentait quelque chose? Car il faut se méfier du terme capitale. Donc si nous parlons sur le plan simplement du territoire algérien, toutes ces communautés musulmanes, ces communautés israélites, ces communautés mozabites, ces communautés françaises, ces communautés italiennes, espagnoles, qui sont venues de tout le bassin méditerranéen à la suite de la colonisation de Napoléon III, avaient évidemment, si vous voulez, deux capitales. Il y avait la capitale directe, qui était Alger, puisque jusqu'aux derniers événements, il y avait l'Assemblée algérienne, il y avait une Assemblée algérienne, il y avait donc une structure politique algérienne en place. Il est évident que pour l'habitant d'Algérie, Alger était la petite capitale de l'Algérie, si vous voulez. Mais dans le cœur de tous, et là, c'est là où je mets l'accent, c'est dans le cœur de tous, avant que se développe, si vous voulez, cet événement historique, Paris était resté toujours la véritable capitale. C'est-à-dire que, certes, on passait par Alger, mais on ramenait tout à Paris. Ben, cela explique le comportement de tous ces habitants d'Algérie, de toutes les communautés, qui ont répondu toujours à l'appel de la patrie quand il a fallu verser son sang. S'il n'y avait pas eu cette notion de capitale, Paris, capitale de la France, on aurait pu assister à des désertions, à des reflux. Pas du tout. Ces habitants d'Algérie, de toutes les communautés, ont toujours participé, que ce soit à la guerre, hein, de 1914, que ce soit à la guerre de 1939-1945, ces communautés ont toujours répondu à l'appel de la patrie, de Paris. Et alors là, maintenant, je situe les deux mots capitales.
Ah oui, je vois. Donc, la deuxième question que j'avais à vous poser ici, vous deviez avoir donc beaucoup de contacts avec Paris pour sentir cela. De quel genre étaient ces contacts?
On avait des contacts avec Paris, c'était normal, puisque nous étions une colonie française qui avait en place une structure politique, mais qui était rattachée financièrement à la France, et politiquement et militairement à la France. Et voilà pourquoi je vous fais cette nuance, si vous voulez, entre ce mot capital que vous avez employé, hein, ce n'était pas notre capital. Si vous voulez, c'était le grand rendez-vous de l'Algérie, c'était Alger, c'était donc la petite capitale, c'était par là où passaient toutes les affaires, mais l'autre grande capitale, dans le cœur de tous, c'était la métropole. Il faut faire cette nuance-là. C'est pour ça que j'ai fait cette nuance entre ce mot capitale.
Oui, je comprends.
Car si on avait, et j'ai craint que dans votre question, pardon et ma franchise. J'ai craint que, dans votre question, le mot capital prenait un sens absolu. C'est-à-dire que les habitants de l'Algérie, je dis bien les habitants de l'Algérie, car on a fait souvent une confusion entre les habitants de l'Algérie, les musulmans, les Algériens, et etc., toutes les communautés, les habitants de l'Algérie, n'avaient pas cette idée préconçue, nous formons un seul, si vous voulez, peuple, et nous ne dépendons que d'Alger. Non, tout le monde sentait qu'on était tous rattachés à la métropole. C'est pour ça que j'ai fait cette nuance entre ce terme capital.
Oui, je comprends. Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, de quel genre étaient les contacts pratiques ou contacts matériels entre...
Il y avait tous les contacts, tous les contacts que pouvait avoir l'Angleterre avec Saint-Dominion.
Vous aviez
relations. Oui, mais les fonctionnaires, on avait un voyage payé, enfin un voyage gratuit tous les deux ans pour la métropole, dans le statut des fonctionnaires. Les musulmans venaient en France surtout pour travailler, pour travailler parce que la France était un marché de main-d'œuvre, quoi. Voyez-vous ? J'avais des contacts journaliers, je dirais presque horaires, avec la France. Les avions étaient continuellement en circulation entre la France et l'Algérie. Ça, on n'était pas du tout isolés. Pas du tout. Disons qu'il y avait deux économies différentes, quoi. L'Algérie avait son économie propre, qui venait en complément de l'économie française, et vice-versa, les produits fabriqués qui n'existaient pas tellement en Algérie, venaient de la France. On voyait relativement peu de voitures étrangères, par exemple, rouler en Algérie, alors qu'on voyait partout des marques françaises. Vous voyez, rouler en Algérie. Le lien était très, 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 très étroit. C'était sur le plan politique, le gouvernement, on ne peut pas dire un gouvernement, l'Assemblée algérienne qui était en place à Alger dépendait politiquement directement de la métropole. Mais ces élus-là étaient les élus quand même des habitants d'Algérie. Économiquement, on ne faisait qu'un. Il n'y avait qu'une petite barrière douanière, c'est exactement ce qui se passe toujours entre une colonie et une métropole, c'est à cause des frais de douane, c'est des histoires de cigarettes, c'est des histoires de... c'est tout, mais économiquement, on était liés intimement avec la France. Surtout dans les produits naturels, dans les ressources naturelles, où l'Algérie est une terre riche en ressources naturelles.
Alors, il y avait un continuel va-et-vient entre...
Continuel, c'était même... perpétuel. Alors, même sur le plan culturel, vous aviez des habitants de l'Algérie, musulmans ou européens, car il ne faut pas oublier que les musulmans ont fait des études comme nous, qu'il y a eu des docteurs, des avocats, des magistrats qui sont venus enseigner en France, vice-versa, des métropolitains qui sont venus enseigner en Algérie. À ce moment, je vous parle... en tant qu'indigène du pays, au sens étymologique du mot, indigène, c'est-à-dire qui est né de parents nés sur le pays.
Vous m'avez dit, je crois, la dernière fois que vous êtes même quatrième génération.
Je suis de la quatrième génération. Oui. De la quatrième génération, c'est exact. Alors, pour revenir justement entre la différence qu'il y a entre les habitants d'Algérie et ceux qui venaient de la métropole pour apporter leur culture ou pour apporter leur savoir ou pour venir s'enrichir. Il faut bien le dire, il y en avait qui avaient cette optique-là aussi, de dire c'est le pays de cocagne, on va les enrichir. Il ne faut pas nier ça. Il y a une différence, c'est que le fond de ces habitants d'Algérie était formé de toutes les races méditerranéennes. Car il ne faut pas oublier que depuis l'Antiquité, l'Algérie a été une terre de passage. Et je crois qu'il faut faire la nuance entre une terre de passage et une terre où a vécu un peuple. Mais vous, l'Angleterre n'a pas été une terre de passage. La France n'a pas été une terre de passage. Mais l'Espagne a été une terre de passage et l'Algérie a été une terre de passage. C'est qu'il n'y a qu'à reprendre l'histoire. Il y avait certes, l'autochtone, celui qui était depuis les ancêtres sur le pays, qui formait le peuple berbère. Mais depuis l'Antiquité, cette Algérie a fait le lien entre l'Occident et l'Orient. Et ce lien de l'Occident à l'Orient a été fait par toutes les civilisations, depuis la civilisation phénicienne. Lorsque les Phéniciens se sont, disons, créé le besoin d'expansion commerciale, ils sont partis avec leurs bateaux de l'Asie mineure, ils ont fait toutes les côtes, ils se sont implantés en Afrique du Nord. Puis après, vous avez eu l'autre civilisation qui a été une civilisation romaine, hein, j'en saute peut-être, romaine, qui elle a procédé de la même façon que les Phéniciens, absolument de la même façon que les Phéniciens. Les Romains sont partis d'Italie, ont voulu conquérir le bassin méditerranéen, et ont conquis, ils sont passés sur la terre d'Afrique. Voilà pourquoi en Afrique du Nord, si vous voulez voir des ruines romaines splendides, il faut aller en Afrique du Nord. Vous verrez de magnifiques ruines de la civilisation romaine, absolument sensationnelles, des villes entières, telles que Tingal, telles que Djémila. Et vous ? Mais les Romains ont été suivis par les Vandales. Et puis vous avez eu encore une civilisation chrétienne qui est arrivée là-dessus. Et puis ensuite vous avez eu l'invasion arabe, au moment où a pris naissance, si vous voulez, le mahométisme, au moment où le prophète des musulmans est apparu. Il y a eu la conquête du monde par le mahométisme. Et alors à ce moment-là, ils ont refait exactement la même chose. Ils ont traversé encore l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, sont rentrés en Espagne, ils sont arrivés en France, jusqu'à cette fameuse bataille de Poitiers. Il ne faut pas oublier que les Arabes ont vécu 800 ans en Espagne, donc autant en Algérie. Mais ces Arabes ont été chassés par la civilisation turque. Et nous arrivons là, à ce moment-là, près de notre histoire contemporaine, civilisation turque, c'est vers 1830. Donc, il y avait déjà des relations commerciales entre l'Afrique du Nord et les pays d'Occident. Et il y avait cette fameuse, vous avez certainement souvenance de ces fameux barbaresques, hein, qui écumaient les mers, qui écumaient la mer Méditerranée. Et c'était la suite d'une histoire commerciale que la France a été obligée d'intervenir. Mais à l'origine, la France n'était intervenue dans cette affaire commerciale, qui était un marché passé entre le Bey d'Alger et un commerçant musulman, non israélite, je crois, de la France. La France est intervenue parce qu'à cette époque-là, on avait une notion de l'honneur, une notion de la parole donnée, etc. Mais la France n'avait pas du tout l'intention de faire de la colonisation à cette époque-là. C'était une affaire à régler, une affaire d'honneur à régler, ça n'allait pas, les bateaux étaient rançonnés, on n'avait pas respecté un marché. Ce n'est qu'après, que Napoléon III a envisagé d'une façon systématique la colonisation de l'Algérie, d'ailleurs comme tous les pays européens à cette époque-là. Nous ne sommes pas les seuls. Hein, nous prenons toutes les grandes puissances européennes, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Belgique, que ce soit des grands États européens, ont tous essayé d'avoir leur colonie, ce qui faisait une puissance économique pour eux. À ce moment-là, c'était la colonisation systématique demandée par Napoléon III, mais cette colonisation, justement, j'en arrive maintenant aux origines des habitants de l'Algérie, disons. Alors vous voyez qu'il y a un mélange de races, un mélange de sang, hein, qui fait que cette race s'est toujours renouvelée, si vous voulez. Puis quand sont arrivés les Européens en colonisation, vous avez eu les Italiens qui ont été accueillis et qui sont descendus par la Tunisie et qui se sont répandus à peu près jusqu'à la hauteur de Djili, voyez-vous. Puis vous avez eu de l'autre côté, venant de l'Ouest, vous avez eu les Espagnols qui sont passés par le Maroc et ces Espagnols se sont implantés surtout dans la région d'Oran et vous aviez notre collègue qui était là, était un Oranais. Il était un Oranais. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il était espagnol, il était Oranais. Et puis, vous avez eu les Napolitains, vous avez eu les Siciliens, tous ces gens qui n'arrivaient plus à vivre, voyez-vous, sur le continent européen, ont été chercher ont été faire leur vie sur ces terres d'Algérie qui étaient très peu peuplées, il ne faut pas l'oublier, très très peu peuplées. J'ai bonne mémoire, il n'y avait que 2 millions d'habitants sur cette immense superficie qui est l'Algérie, qui fait à peu près 5 fois la France, et qui n'était pas exploitée. Vous comprenez? Alors, ces premières générations ont acquis leurs terres simplement par don au bout de 5 ans. S'ils avaient mis en valeur leur lot, ils avaient leurs terres. En plus, ça ressemble un peu à la colonisation de l'Ouest américain. Et vous, où on venait s'installer, on prenait possession d'une concession. Tandis que là, c'était réglementé, vous preniez une concession. Si au bout de 5 ans, on avait jugé que votre concession était mise en valeur, vous deveniez propriétaire et vous aviez le droit d'acquérir automatiquement la nationalité française. Donc, c'est ce qui fait que dans certaines familles qui viennent d'Algérie, vous retrouvez à la base, à la souche, oui, je parle de l'arbre généalogique, donc je parle de la base. Hein. Vous retrouvez, par exemple, dans certaines familles, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Suisses. Et c'est ce qui a formé notre génération. Donc cette génération a vécu sur cette terre, et vous la connaissez sur le bout des doigts, et a vécu en symbiose avec l'indigène, alors oui, ça ne forme pas une unité à part, quoi. Pas du tout à part.
Et vous m'avez dit, vous avez parmi vos ancêtres des Italiens, des Espagnols, des...
Exact. Oui. Ma grand-mère est de Cluse, donc savoyarde, mais la Savoie était rattachée à l'Italie, avant qu'elle soit rattachée à la France, en échange du comté de Nice. Donc ma grand-mère s'est mariée avec un Italien, et mon grand-père venait d'Espagne. Et dans la famille de ma femme, nous avons des Suisses. Des Suisses. Ben, ces Suisses-là, ce n'étaient pas des Suisses autochtones, c'était des gens qui venaient de la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes, qui avaient quitté la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes, et qui ont retrouvé moyen de retrouver droit de cité, si vous voulez, en venant en Algérie. Vous aviez des villages entièrement Suisses, vous aviez des villages entièrement Alsaciens.
Donc, la question suivante que j'avais préparée ne peut pas être très bien posée. J'avais demandé quel était le rôle des Français envers les musulmans.
Ben
pour vous, il n'y avait
non,
pas de Français.
Non, c'est pas le rôle. Vous êtes à la troisième question. Et la deuxième. Oui, je voulais en vous parler de la troisième, si vous avez fait la quatrième. Ça n'a pas d'incidence. Le rôle. Ben, justement, il est facile à déterminer le rôle.
Oui.
D'après ce que je viens de dire. Vous devez comprendre que on ne jouait pas un rôle vis-à-vis du musulman. On vivait en symbiose. C'était une communauté. C'était une communauté. On formait une communauté.
Oui, mais une communauté quand même avec au moins deux langues.
Oh, même plus.
Oui.
Même plus. Plus de deux langues. Mm-hmm. Beaucoup plus de deux langues. Vous aviez le français, vous aviez les Italiens qui parlaient italien, les Napolitains qui parlaient napolitain, les Arabes qui parlaient arabe, et Dieu sait si dans les dialectes, si dans la langue arabe il y a des dialectes, ça changeait de région en région, vous comprenez? Mais non, moi je pense que là, nous on n'avait aucun rôle à jouer, on vivait en symbiose. C'est tout au moins mon opinion personnelle. Mon opinion personnelle, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais éducateur. J'étais éducateur. Ça, c'est différent. Moi, je vis en contact permanent. Alors, c'est ce qui m'arrive. Votre deuxième question, quels étaient mes contacts avec la population? Et moi, j'étais éducateur. J'étais en contact permanent avec les enfants. J'étais en contact permanent avec les parents. Parce que les parents venaient plus souvent voir le maître qui représentait à leurs yeux une valeur. Quand un musulman vous disait « Je te donne mon fils », il fallait comprendre je te rends responsable de ce que fera mon fils à l'école. Et là, véritablement, vous prenez la responsabilité vis-à-vis de lui. Et vous faisiez une entière confiance. Vous comprenez? Alors, les contacts, ils étaient permanents. Les commerçants étaient musulmans. Vous aviez des commerçants français, mais vous aviez des commerçants musulmans. Vous aviez des artisans français, mais vous aviez des artisans musulmans. Donc, vous voyez, il y avait une vie communautaire. Certes, il y avait peut-être une différence de niveau entre certains artisans, certains commerçants, musulmans et européens, il y avait des différences. Mais il faut bien se dire que, ayant deux races ethniques vivant, si vous voulez, toujours côte à côte, il y a des modes de vie quand même qui se créaient automatiquement. Mais cela n'empêchait pas. Cela n'empêchait pas l'Européen, disons, de faire une différence avec le musulman, d'aller chez le commerçant musulman, d'aller chez l'artisan musulman, d'aller chez chez l'habitant. Vous comprenez ? Les contacts étaient fréquents, très 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 fréquents.
Est-ce que tout le monde parlait arabe ?
Alors ensuite, vous me parlez des contacts sur le plan culturel. Là, c'était sur le plan personnel, parce que je suis votre questionnaire, moi. Je suis votre questionnaire.
Mais je ne sais plus. Ça c'était les contacts.
Quotidienne, voilà,
oui,
vie professionnelle.
Mais là, c'était les contacts avec la métropole, voilà. Mais c'était tout
précisément. Ah, ça ne fait rien, mais là je vous parle du contact dans le milieu.
Pardon.
Alors les contacts sur le plan culturel, il faut pas oublier que l'école étant ouverte à tous en Algérie, et je dis bien à tous, car je n'ai jamais, au cours de toute ma carrière, je n'ai jamais vu refuser l'entrée d'une école à un musulman. Ça, je tiens absolument à l'affirmer. On n'a jamais refusé un petit musulman qui venait se faire inscrire à une école. Que certains moyens manquaient, que des locaux manquaient, que des maîtres manquaient il y a 20 ans, je ne dis pas non. Mais on n'a jamais refusé à un musulman l'entrée dans une école française. Puisque justement, dans cette assemblée algérienne, on retrouvait des élites musulmane qui avait été formée par la culture française, les docteurs, les avocats, les députés. Alors, dans notre vie professionnelle, nous avions des collègues musulmans. Il n'y avait aucune différence entre le collègue musulman et le collègue européen. Ils étaient instituteurs à part entière, s'il faut employer l'expression, avec nous. Ils avaient les mêmes droits, ils avaient les mêmes avantages, ils participaient à nos discussions. Ils avaient le droit de participer à la vie syndicale, exactement comme tout instituteur a le droit de participer à la vie syndicale d'une tendance ou d'une autre. Donc voilà les rapports quotidiens, voyez-vous, avec toutes les masses. Sur le plan politique, il est évident que la participation musulmane était relativement faible, parce qu'il faut bien se dire quand même qu'il y a deux civilisations en présence, et que le niveau, si vous voulez, d'intellectualité, est énorme entre ces deux civilisations. Mais les musulmans ont participé de longue date à la vie politique du pays, ne serait-ce que comme conseillers municipaux. Il y avait des conseillers municipaux, il y avait des conseillers généraux, il y avait les délégués à l'Assemblée algérienne, il y avait même des députés. Alors voyez-vous que les contacts avec les musulmans étaient quand même fréquents sur le plan de la vie courante, je vous l'ai dit, sur le plan culturel, sur le plan politique, hein. Voilà.
Ah oui, je m'excuse, j'avais compris que vous aviez terminé beaucoup plus vite.
Non. Alors vous m'avez demandé la question C. Vous sentez-vous plus près d'un centre culturel ?
Oui, ici à Orléans.
Alors je dis à Orléans, oui, parce que j'y suis depuis très peu longtemps, je me sens plus près d'un centre culturel depuis la création de l'université et la proximité de Paris. Mais il ne faut pas oublier qu'à Alger, il y avait une université qui était réputée. Et l'université d'Alger était tellement réputée, était tellement sévère, que lorsqu'un étudiant échouait au baccalauréat à Alger, il venait le présenter en été à Montpellier. Il était reçu. Et l'université d'Alger était très, 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 très cotée. Très sévère et très cotée. Et formait des élites. C'était loin. Vous savez, en Algérie, la distance ne comptait pas pour nous. Étant né dans un pays où on avait l'habitude des grands espaces. Quand on allait voir des amis à 50 km, à 100 km, c'était tout à fait normal. On partait à 1h de l'après-midi, on allait voir des amis à 100 km, on revenait le soir. Alors qu'en France, quand vous dites, je vais à Pithiviers ou je vais à Sens, qui est à 100 km, oh là, c'est un véritable voyage. Pour nous, les distances ne comptaient pas. Maintenant, les relations avec Alger étaient très commodes, avec la relation ferroviaire et les relations aérienne. Alors Alger était à la portée de tous les étudiants. J'ai dit de tous. Évidemment, ça pose toujours le problème de questions de sociales, quoi. Mais enfin, je n'ai pas souvenance qu'on ait refusé systématiquement l'entrée d'un étudiant dans un lycée ou l'entrée d'un étudiant musulman dans une faculté. Je dis bien, je n'en ai pas souvenance, tout au moins. Puisque moi, j'ai fait mes études avec des musulmans qui ont suivi les mêmes études que moi. Nous nous sommes trouvés sur les bancs de l'école primaire, nous nous sommes trouvés sur les bancs de l'école primaire supérieure, nous nous sommes retrouvés sur les bancs des écoles normales d'instituteurs, nous nous sommes retrouvés militaires ensemble, hein. Ils ont versé le sang comme certains des nôtres ont versé. Hein. Alors vous voyez que... Alors évidemment, je me sens plus près d'un centre culturel, oui. Je suis heureux pour mes enfants. Parce que mes enfants, ben, je les ai à la maison. Ils sont pas loin. Ils vont à la faculté, rentrent le soir. Ils auraient été en Algérie, ils auraient été en faculté à Alger, ben ils ne seraient revenus que toutes les semaines, hein, ou ils ne seraient revenus que pour les vacances. Hein. Enfin, voilà, on avait quand même des relations culturelles. Alors vous m'avez posé la question, y a-t-il beaucoup de Français qui parlent l'arabe?
Oui.
Alors là, je fais la différenciation entre la langue courante, c'est-à-dire la langue parlée courante vulgaire, arabe. Et là, je dis qu'il y avait 90% de Français qui parlaient la langue arabe, couramment. Maintenant, dans l'arabe littéral, alors là, non. Là, il y avait peut-être à peine, peut-être, j'estime à 5%, à peine qui faisaient de l'arabe littéral. Ben, tout ça, c'était les magistrats et les anciens magistrats musulmans qui s'appelaient les cradis qui... Elle ressemblait, si vous voulez, au notaire qui en faisait les actes notariés, qui enregistrait les mariages, selon la loi musulmane. Car on n'a jamais imposé à la cour musulmane la loi pénale française, la loi matrimoniale française, on ne l'a jamais imposée aux musulmans. Ils pouvaient se marier selon leur rite, d'ailleurs, il n'y avait même pas de registre de... officiel dans les mairies, hein, pour les musulmans, c'était le mariage était enregistré chez le cadi. Et ce n'est qu'ensuite, lorsque cette symbiose est arrivée, où les musulmans se sont fait enregistrer normalement dans les mairies, comprenez, et où on retrouve maintenant tout leur état civil comme les nôtres. Alors, l'arabe littéraire, ça n'en très peu parlé. Hein. D'ailleurs, même parmi la population arabe, il n'y avait que les chefs religieux et les imams, hein, qui s'exprimait en arabe littéral. Les autres, langue parlée, normale. Et dans nos écoles supérieures, on faisait principalement de la langue arabe comme langue vivante. Alors de la langue arabe, on faisait surtout de l'arabe parlé, voyez-vous, un peu d'arabe littéraire. Mais il n'y avait que les communautés, enfin il n'y avait que les individus doués qui voulaient faire par exemple un professorat d'arabe qui pouvaient continuer parce que c'était très dur, l'arabe est très difficile. Alors généralement c'était des Israélites ou des musulmans eux-mêmes qui poursuivaient leurs études et qui allaient faire une licence, une agrégation d'arabe à Alger, hein, pour devenir professeur d'arabe. Mais il y avait beaucoup d'Israélites qui se devenaient professeurs d'arabe. Bon, ma part, je parlais couramment l'arabe, maintenant je commence à le perdre, évidemment. Enfin, l'arabe dialectal, je le parlais couramment. C'était absolument nécessaire, hein. C'est un peu dans votre question, c'est absolument nécessaire, parce qu'on vivait justement constamment en rapport avec ces gens-là. Et lorsqu'on a une école, lorsqu'on a eu la joie d'avoir une école située sur un piton, à 15 km à la ronde, dans une maison, où il n'y avait ni gaz, ni eau, ni électricité, où on vivait au milieu de l'indigène, il fallait parler l'arabe. Et il fallait s'adapter à son rythme de vie. Alors vous voyez à quel point un éducateur en Algérie pouvait être en contact avec les musulmans. Car les musulmans, hein, des montagnes, les musulmans des steppes algériennes, ne parlaient pas tous le français. Alors pour moi, ça a été un grand secours. J'ai été élevé... Et au milieu d'eux, j'ai appris l'arabe, disons, au cours de ma vie. Depuis l'âge de 4 ans, j'entendais parler arabe, j'ai parlé arabe. Hein, c'est exactement comme si on plaçait un petit français chez vous à l'âge de 4 ans et qu'on ne sorte plus d'Angleterre et qu'on le ramène à l'âge de 10 ans. Il parle anglais couramment. Et alors il faudrait lui faire des cours de français.
Oui.
Donc voyez-vous, cette question de langue, hein, c'est assez. On ne peut pas dire que c'est, ça s'attache à un individu, ça s'attache au développement d'un être vivant. Hein? Prenez un anglais, mettez-le en France. Bon, il parlera couramment le français. En 5-6 ans, ramenez-le en Angleterre, hein, il en saura autant que le professeur, comme professeur du premier cycle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai observé dans certaines de mes classes avec les Américains à Orléans. Ben, j'avais un ménage américain qui avait mis son enfant à l'école, qui était doué, qui a fait d'excellentes études en français. Alors j'ai posé la question au papa, qui lui ne parlait pas français, par l'intermédiaire de l'enfant, évidemment, je ne parlais pas anglais, je ne sachant pas un mot d'anglais, mais il m'a dit, je tiens absolument à ce qu'il possède le français d'une façon parfaite, car lorsque nous rentrerons en Amérique, il rentrera dans le cycle d'études du système américain, mais il va devenir un spécialiste en français. Et il avait raison, puisqu'il parlait l'américain chez lui.
Oui.
Posséder deux langues automatiquement, mais en approfondissant une parfaitement à l'école primaire, c'est-à-dire en connaissant les bases et les choses les plus simples. Quoi. Vous aviez une autre question à F. Ah oui, les divisions, sujet des divisions.
Oui, est-ce que les Européens, je devrais dire maintenant, étaient divisés eux-mêmes sur les Européens?
Les Européens, oui, comme ça vous faites bien la différence.
Oui.
Parce que français, on était français.
Oui.
Français est un terme général. Il faut faire en Algérie, maintenant vous avez compris la nuance de toutes ces communautés. Alors disons, il y avait l'Européen, l'Européen d'origine latine, et vous aviez le musulman d'origine mahométane. Bon, et vous me demandez si dans la communauté européenne, il y avait une division au sujet du pays. Honnêtement, moi, je vous dis que non.
Il y avait simplement l'espoir de rester en France, quoi.
Je m'arrête là. Je dis que moi... Ah oui, l'espoir de rester français, oui. Tout le monde l'avait. Et justement, c'est pour vous dire qu'il n'y avait aucune division quant à l'avenir du pays. Hein, on ne passait pas au séparatisme. Pas du tout. Non. D'ailleurs, c'est ce qui a créé peut-être cette résistance.
Et la dernière question que j'avais était... Si vous pensez que, selon votre expérience, est-ce que ça aurait été possible de créer un État franco-musulman?
Selon mon expérience, et je vais vous faire part, plus que mon expérience, parce que quand même, mon expérience à l'échelle de l'histoire est courte. Mais enfin, j'ai eu ouï dire que dès, vous savez qu'après la guerre de 1939-1945, il y a eu un début de révolte. En 1945, sur les hauts plateaux algériens. Et cette révolte a été tout de suite arrêtée. Mais à cette époque-là, tous les grands administrateurs, certains grands administrateurs musulmans, préconisaient, si vous voulez, le système du dominion. C'est-à-dire que cette communauté musulmane et européenne ne se sépare pas, mais au contraire continue sur les mêmes bases de vie commune, l'un complétant l'autre, l'un faisant un effort pour élever l'autre, et l'autre l'aidant, dans les deux sens. Dans les deux sens. Et rester quand même sous l'aile de la France. Donc un peu le principe du dominion anglais, qui a son économie, qui a sa politique intérieure, qui a ses chefs politiques intérieurs, et qui, cependant, reste rattaché à une métropole. Je pense que ça aurait pu être. Seulement, il aurait fallu bien avant les événements, bien avant les événements historiques dont vous voulez parler. Je crois qu'on aurait pu.
Oui. Vous croyez que les deux communautés pourraient vivre non seulement en symbiose, mais en osmose peut-être? Ou est-ce qu'on pourrait
non.
vraiment...
Non, en symbiose, en osmose, non.
Non.
Non, c'est parce que ce sont deux civilisations différentes.
Mm-hmm.
Ce sont deux civilisations absolument différentes.
Mm-hmm.
Non. Il faut connaître la civilisation musulmane pour voir à quel point elle est différente mm-hmm. de la civilisation européenne, ne serait-ce que sur le plan religieux.
Mm-hmm.
Sur le plan religieux. Non, moi je dis en symbiose, mais pas en osmose.
Mm-hmm.
Il n'y aurait pas eu intégration totale, il y aurait eu toujours cette collaboration étroite, cette vie côte à côte. Je ne pense pas qu'on serait arrivé à l'osmose complète, c'est-à-dire à un mélange, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas.
Toujours, je suppose, la culture française dominerait de n'importe quelle façon, n'importe quelle...
Non, non, pas spécialement.
Non.
Non, pas spécialement, puisque on avait admis dans nos études l'arabe.
Mm-hmm. Ah oui, mais si vous... dites aussi qu'un pourcentage infime de
oui.
Français apprenait l'arabe littéraire.
Ben oui, mais l'arabe littéraire ne servait, l'arabe... je vous dis que même l'arabe,
oui.
l'arabe courant,
oui.
hein, l'autochtone du pays ne connaissait pas l'arabe, oui. ne connaissait pas l'arabe littéraire.
Il y a tout cela donc qu'il faudrait développer pour
ben
qu'il
oui.
y ait vraiment deux cultures.
Mais moi je crois que les deux cultures auraient
oui.
été possibles.
Oui.
Puisqu'on apprenait bien dans nos écoles supérieures, on apprenait bien la langue arabe comme langue vivante.
Mmh.
Et les Anglais faisaient, et les petits Arabes, les petits musulmans qui allaient au lycée faisaient bien l'anglais, si vous voulez.
Oui.
Vous pouvez faire l'italien aussi, si vous voulez.
Oui.
Donc vous voyez, ça c'est...
Mais en même temps, les musulmans faisaient toutes leurs études en français. N'est-ce pas? Ou est-ce que j'ai tort?
Ah, tout en français, non?
Oui.
Ils faisaient toutes leurs études en français,
en français,
certes.
Oui.
Ben justement, là, c'est peut-être des solutions qui seraient arrivées ensuite. On serait
oui,
peut-être
oui.
arrivé à concilier les deux
oui.
hein, et faire une partie des études sur le rythme musulman,
oui.
puis faire une partie du rythme sur le rythme français. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, il reste quand même une certaine portion encore de culture française qui garde.
Mm-hmm. Oh, inévitablement, oui.
Ben, je ne peux pas le dire, je ne sais pas
oui.
où en est la situation.
Alors, merci beaucoup, monsieur. C'était vraiment très, très intéressant ce que vous m'avez dit en réponse à mes questions assez...
Perfides,
non, j'allais dire malhabiles.
Non, elles ne sont pas malhabiles.
Que...
Non, mademoiselle, elles ne sont pas malhabiles. Pas du tout. Non, elles ne sont pas malhabiles. Non seulement, disons que c'est plutôt moi hein, qui ai eu le mauvais esprit de voir quelque chose de
De perfide,
non, ben, qu'on a le mot capital, vous voyez, c'est pour ça que j'ai développé le mot capital.
Ah, mais non, c'était
hein?
simplement pour savoir si dans le pays il y avait une espèce d'unité,
si vous regardiez vers Alger,
Paris c'était quelque chose d'étranger.
Ah, ou... non, pas du tout.
Non.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
oui.
non. Étranger, Paris n'était pas du tout étranger pour nous, pas du tout.
Un peu comme, par exemple, les Canadiens anglais maintenant. Londres, oui, c'est une capitale, mais c'est pas une capitale à eux.
Les Canadiens, mais c'est pour
ou
ça
les
que...
Ou les Australiens.
Oui, ça c'était le régime dominion, c'est ce que
oui.
je vous disais.
Mm-hmm.
Donc c'était la dernière solution hein, à laquelle j'ai répondu.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il aurait été possible que tout le monde reste en place et qu'on fasse quelque chose sur place, un gouvernement, une
oui.
mise en place économique? Oui,
mm-hmm.
dans le genre dominion,
mm-hmm.
en restant sous... l'influence de la métropole avec son aide, avec sa coopération, avec sa collaboration.
Mm-hmm.
Moi, personnellement, je pense que oui.
Alors, je vais.
Fin de l'enregistrement.